En ce mois de septembre, beaucoup de gens qui sont intéressés par l'islam, cette grande religion qui est apparue au 7e siècle, beaucoup de gens se souviennent que en l'an 622, lors de l'entrée du prophète Mohammed à Médine, il était sur une chamelle. On date de ce moment, le début de l'ère musulmane. Les gens ne s'entendent pas pour ce qui est de la date. Dans son immense vie du prophète Mohammed, Martin Lings, un anglais musulman, a publié au seuil cette vie énorme et au chapitre 38, il dit que c'est le 27 septembre 622. Par contre, quelqu'un que j'ai eu la chance de recevoir chez moi, et je l'ai visité à Paris, Virgile Giorgio, dit que ce serait non pas au mois de septembre, mais vraisemblablement le 16 juillet. D'autres disent que c'est aujourd'hui, l'anniversaire le 24 septembre, car ce serait arrivé un 24 septembre 622. On ne s'entend pas. C'est donc le début aujourd'hui, selon certains, de la période musulmane où les musulmans commencent à compter les années. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous fais la lecture, qui n'est pas très longue, de ce chapitre 38 de Martin Lings, Le prophète Mohammed, sa vie d'après les sources les plus anciennes, parue au seuil il y a quelques années à peine. C'est une traduction, évidemment. Le prophète Mohammed était arrivé dans l'oasis, un oasis, le lundi 27 septembre 622 de l'ère chrétienne. Et plusieurs messages lui sont parvenus bientôt, montrant que le peuple de Médine l'attendait avec impatience. Aussi ne resta-t-il à Kouba, dans l'oasis, que 3 jours entiers, pendant lesquels il posa les fondations d'une mosquée qui allait être la première de l'islam. Jamais il n'y eut un jour de plus grande réjouissance à Médine et dans les environs. Le prophète de Dieu est arrivé, il est arrivé. Tel était le cri joyeux que répétaient les voix de plus en plus nombreuses des hommes, des femmes et des enfants qui s'étaient rassemblés le long de la route. De son pas lent et majestueux, Kaswa, c'est la chamelle qui s'appelle Kaswa, donc de son pas lent et majestueux, Kaswa donnait le rythme à la procession qui s'avançait parmi les jardins et les bouquets de palmiers au sud de Médine. Les maisons étaient d'abord rares et éloignées les unes des autres. Puis elles commencèrent à se resserrer et nombreuses étaient les invitations. Écoutez bien, ce sont les invitations qui fusaient avec insistance vers les arrivants. « Descends ici, ô envoyé de Dieu, car nous avons pour toi force, protection et abondance. » Alors, c'est une drôle d'histoire, vous allez voir. Plus d'une fois, un homme isolé ou un groupe de membres d'un même clan se saisirent de la bride de Kaswa, la chamelle. Ils voulaient la diriger vers chez eux pour recevoir le prophète. Mais à chaque fois, le prophète leur adressait une bénédiction en ajoutant, chose très curieuse, « Laissez-la aller, car elle est sous le commandement de Dieu. » Une chamelle sous le commandement de Dieu. C'est bien curieux. Et c'est comme ça que vous allez voir, va commencer l'ère musulmane. Curieuse chose. Quand on lit ça dans les textes musulmans, on reste surpris. Du moins, moi, je suis resté surpris. À un moment donné, il sembla que la chamelle se dirigeait vers les maisons des plus proches parents du prophète. Cependant, elle dépassa, sans s'y arrêter, le lieu où Muhammad, Mahomet si vous préférez, avait demeuré avec sa mère lorsqu'il était enfant. Puis, dépassa tout le quartier où habitaient ses plus proches parents, qui lançaient en vain des invitations pressantes pour qu'ils s'établissent parmi eux. Et chaque fois, le prophète donnait la même réponse qu'aux premiers habitants de la ville, c'est que sa chamelle était sous la conduite de Dieu, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient que s'y résigner. Et alors là, le prophète atteignit ensuite les maisons des Bani Malik, une branche des Najjar. À ce sous-clan appartenaient deux des six hommes, Assad et Aoui, ou Aft plutôt, Aft, qui lui avait fait allégeance l'année qui avait précédé le premier pacte de Aqaba. Et là, la chamelle, Kaswa, quitta la route, c'est étrange, pour s'engager dans une vaste cour entourée d'un mur. C'est très, très curieux tout ça. Alors, elle va dans une cour entourée d'un mur et occupée par quelques palmiers, puis par un bâtiment en ruine. Un coin avait jadis servi de cimetière. Un autre était utilisé pour le séchage des dattes. Et Kaswa, la chamelle, s'avança lentement, toujours avec le prophète Mohammed sur son dos, vers une sorte d'enclos. Qu'Assad, dont je viens de vous mentionner le nom, avait aménagé pour la prière et à l'entrée duquel elle s'agenouilla, raconte-t-on. Le prophète lui lâcha la bride, prophète Mohammed, lui lâcha la bride, mais sans mettre le pied à terre. Au bout d'un instant, elle se releva et reprit sa marche d'un pas nonchalant. Elle n'alla pas loin, puis elle s'arrêta, revint sur ses pas et regagna l'emplacement où elle s'était arrêtée la première fois. Puis là, on dit qu'elle s'agenouilla à nouveau, et cette fois, elle aplatit son poitrail sur le sol, et le prophète en descendit et déclara, « C'est ici, si Dieu le veut, que nous allons demeurer. » Il demanda à qui appartenait cette cour, et Mouad, le frère de Aft, ou de Aft, lui, ça s'appelle A-W-F, c'est pas facile, puis un apostrophe devant là. Mais cet homme lui répondit, et qu'elle était la propriété de deux orphelins, qui étaient placés sous la tutelle d'Assad, et le prophète pria ce dernier d'aller les chercher, mais ils étaient venus se présenter spontanément, les deux petits orphelins, et ils se tenaient déjà devant lui. Il leur demanda s'ils accepteraient de lui vendre ce terrain et quel en serait le prix. « Nous voulions t'en faire don, ô envoyé de Dieu, » protestèrent-ils. Et le prophète ne voulut cependant point accepter le cadeau, et un prix fut fixé avec l'aide d'Assad. Il était généreux quand même, ce prophète, il n'a pas voulu recevoir le don. Et dans l'intervalle, Abu Ayoub Khalid, qui habitait près de là, avait détaché les bagages et les avait portés dans sa maison, et d'autres membres du clan arrivés par la suite demandèrent au prophète d'être leur hôte, mais il répondit, « Un homme doit être avec ses bagages, puisque ses bagages étaient déjà arrivés. » Abu Ayoub avait été le premier de son clan à lui prêter serment lors du second pacte d'Aqaba. Lui et sa femme se retirèrent dans la partie supérieure de la maison, et mettant au rez-de-chaussée à la disposition du prophète. Et puis, quant à la chamelle, Kaswa, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, Assad la conduisit dans la cour de sa maison, qui était toute proche, c'est ce qui est arrivé simplement, à la chamelle qui a fait débuter sous la conduite de Dieu, dit le prophète, n'est-ce pas? Il lui dit bien, laisse-la aller car elle est sous le commandement de Dieu. Et c'est le début de l'ère musulmane, dit-on. Étrange chose quand on pense que pour tous les chrétiens du monde entier, 1,5 milliard, c'est la naissance du Fils de Dieu, Fils éternel de Dieu, si intimement uni à Dieu qu'il est Dieu depuis toujours. Et c'est cette incarnation qui fait le début de l'ère chrétienne, c'est pour ça que nous comptons aujourd'hui 1996 ans. Il y a 1996 ans que Jésus est né. On sait d'après les recherches au sujet du calendrier qu'il y a eu une erreur d'un moine du nom de Denis quand il a établi le calendrier à la demande du pape, s'est trompé de quelques années. Alors on sait que Jésus est probablement né 4 ans avant notre ère ou peut-être un peu plus, on n'est pas sûr. Mais ça n'a pas d'importance du tout. C'est un curieux début d'ère. C'est peut-être le signe de l'hospitalité. C'est peut-être à partir de ça, de l'hospitalité. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de sens à cela. Vous savez que le pape à Dhaka, en 1986, avait salué ses frères de l'islam. On dit que Jean-Paul II est arrivé au Bangladesh. C'était donc au mois de novembre 1986. Il était arrivé au Bangladesh, qui était la première étape d'un voyage depuis long son pontificat, qui d'ailleurs l'a conduit ensuite à Singapour, aux îles Fidji, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux îles Seychelles. Et à sa descente d'avion dans la capitale du Bangladesh, le pape a été accueilli par le président Hossein Mohamed, le même nom que le prophète, Ersad. Et les cloches des 75 églises catholiques de ce pays, essentiellement musulmans, ont retenti pendant une demi-heure, avant que l'arrivée de Jean-Paul II ne soit saluée par 21 coups de canon. Et plusieurs milliers de personnes s'étaient massées le long de la route, conduisant à l'aéroport. Mais on était loin des millions de personnes qui s'étaient déplacées pour voir le pape en Inde en février dernier. Et il avait déclaré, et c'est très beau, « Je salue mes frères de confession islamique. » Conscient des liens qui nous unissent au Dieu unique et tout-puissant, le Créateur. C'est ce qu'a déclaré Jean-Paul II à son arrivée. Il paraissait en pleine forme à cette époque-là, au début de ce périple de 49 000 kilomètres. Il était âgé, à ce moment-là, de 66 ans. D'autre part, dans une autre déclaration du pape au sujet de l'islam, faite en 1989, donc 3 ans plus tard, au cours de son 41e voyage apostolique en dehors de l'Italie, il a donné une conférence de presse à bord de l'avion qui le transportait à Madagascar. Il venait de l'île de la Réunion. Et on lui a posé des questions, particulièrement au sujet de l'islam. Il a dit, « Certes, la vie de l'Église en Afrique est marquée par la continuelle recherche du dialogue avec les représentants des autres confessions et parmi elles avec les musulmans. » C'est pour ça que je fais cette émission aujourd'hui. Il faut un dialogue avec les musulmans. On dit que, répondant à la question de journaliste sur les rapports avec l'islam et les questions soulevées par l'action de ceux que l'on a appelés les intégristes musulmans, le pape a dit « Le dialogue est une proposition, une disponibilité de l'Église qui s'est manifestée à notre temps par le Concile Vatican II. » Et il ajoute, ça c'est très très important, c'est de toute façon une tendance qui s'est manifestée aussi dans le passé. Il suffit de se souvenir, n'est-ce pas, de Saint François d'Assise. Il ajoute justement, Saint Thomas d'Aquin lui-même a utilisé la contribution de certains philosophes musulmans. L'Église est ouverte au dialogue et elle est disposée à agir. Moyennant quoi? Le pape dit moyennant l'échange d'idées pour approfondir la vérité. Et il ajoute autre chose et l'attitude que l'on a caractérisée de fondamentaliste. Les partisans du fondamentalisme musulman n'acceptent aucun dialogue et n'hésitent pas à propager leur credo par la force et par l'emploi, par exemple, de la puissance financière. Je reviendrai sur cette question. Je vais essayer de déblayer délicatement ce problème qu'a affronté le Saint-Père et tous ceux qui, dans le christianisme et particulièrement dans l'Église, essaient d'établir des rapports avec les musulmans, d'autant plus qu'ici, à Montréal et dans les environs, ils sont de plus en plus nombreux et nous devons essayer de comprendre. Nous verrons ça tout à l'heure, dans le prochain quart d'heure en particulier. Ya la 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 la. musique musulmane, arabe, d'Andalousie. L'Andalousie, c'est en Espagne, où les Arabes avaient étendu leur empire et ont occupé une grande partie de l'islam pendant des siècles, pendant 7 siècles, n'est-ce pas? J'ai dans ma bibliothèque une 50aine de volumes sur l'islam. J'ai puisé un peu dans Henri Sanson, Dialogue intérieur avec l'islam, puis publié au Centurion. Et aussi ce beau dialogue entre Mohamed Talbi et Olivier Clément, ce grand théologien russe orthodoxe de France. Un respect têtu, publié dans la collection Rencontres à Nouvelle Cité. On m'avait écrit pour me demander la permission d'utiliser le mot rencontre, parce que je réalisais rencontre à Radio-Canada. Je leur ai dit que ce mot-là appartenait à tout le monde. Et il y a un Québécois qui a publié, je vous tiens à vous le signaler, un ouvrage très intéressant et pas long qui mérite d'être lu. Jean-René Milot, qui est un spécialiste de la question, un Montréalais, il a publié « Musulmans et chrétiens, des frères ennemis, point d'interrogation ». Ce livre, qui n'est pas très gros, vient de paraître il y a un an peut-être, chez Médiapol, les filles de Saint-Paul, quoi. Les pères de Saint-Paul, qui ont tous les deux des grandes librairies, vous verrez, trouver ça là. « Musulmans et chrétiens » de Jean-René Milot. C'est pas très long, et ça nous donne une idée de ce qu'il faut penser. À Rencontre, justement, à la télévision, j'avais invité Najmuddin Bamat, un des plus grands musulmans du monde. Ça avait été fait le 17 octobre 1975, donc il y a plus de 20 ans. Et cet homme, malheureusement, qui est décédé subitement dans le métro à Paris, était un sociologue afghan d'origine iranienne. Et un homme parmi les plus cultivés de la Terre. Il parlait 12 langues impeccablement. Et il disait que la culture arabe est méconnue. Et d'ailleurs, il disait que l'arabe lui-même est dans l'ignorance partielle de sa propre identité culturelle. Et qu'il y avait quantité de valeurs communes au monde arabe et à l'Occident chrétien. Mais ces valeurs, disait-il, sont accentuées de façon différente. Et en fait, il y a une grande union, disait-il, une union que lui, il traite en 3 panneaux. Et évidemment, que on demeure un peu surpris de voir à quel point ce monsieur Bamat ignore les Arabes chrétiens, les catholiques maronites, les catholiques grecs melkites, les catholiques latins. Et il les ignore totalement. Au profit, pour ainsi dire, exclusif des musulmans. Mais c'est assez compréhensible, il ne les a pas connus. Alors donc, les 3 panneaux chez ce monsieur Bamat, c'est que nous avons le même Dieu, le Dieu d'Abraham et de Jésus-Christ. Mais est-ce vraiment le même Dieu? Voilà la question. Deuxièmement, il dit, le même maître à penser, Aristote, puis les pré-socratiques. C'est vrai que les grands philosophes arabes du Moyen-Âge puisaient là. Et troisièmement, les mêmes influences scientifiques et commerciales, ou les inter-influences, tout le monde économique dans lequel nous sommes plongés. Il concluait par l'affirmation qu'en fait, nos mondes ne sont pas étrangers, ce serait même un même monde. Mais on peut se poser bien des questions à ce sujet. Bien des questions. Parce que ça n'est pas si facile. Ce n'est pas très facile. Un livre est paru aux éditions Autrement, publié par Claire Brière et Olivier Carré. C'est un livre très franc, de 220 pages. Islam, guerre à l'Occident. Quel malheur que certains musulmans, trop nombreux, font une guerre véritable à l'Occident. Ils nous croient vraiment tous pervertis par le matérialisme, l'idolâtrie et tout. Vous savez que dans un bulletin de l'aide à l'Église en détresse, il y a 2 ans à peine, on nous racontait que Pour les 30 pays d'Asie et d'Afrique où les minorités chrétiennes sont particulièrement menacées par des fondamentalistes musulmans, aide à l'Église en détresse verse beaucoup d'argent. En 1993, ils ont ajouté l'Éthiopie, l'Érythrée, qui est une partie de l'Éthiopie qui veut sa liberté, et le Nigeria. L'Éthiopie, en grande partie chrétien. Bien oui, ce sont des Coptes éthiopiens. Vous savez que les Éthiopiens sont les seuls, les Éthiopiens coptes catholiques, sont les seuls à avoir un grand séminaire sur le terrain du Vatican, près du pape. Ces grands séminaristes avec la peau noire, grands, dignes, aux belles têtes, qui étudient là pour devenir prêtre. L'exode, dit le bulletin que j'ai devant moi, de l'aide à l'Église en détresse, dit l'exode des chrétiens du Proche-Orient continue. Vous savez qu'on en a beaucoup ici, des chrétiens du Proche-Orient. Ils viennent de Syrie, du Liban, de Jordanie d'ailleurs. C'est terrible. Et évidemment d'Égypte. Dans de nombreux pays, dit le texte ici, les attaques des fondamentalistes islamiques se multiplient contre des communautés chrétiennes. Quelle tristesse. Dans la ville de Téma, en Égypte, ils ont détruit 2 des 6 églises. Ce sont les fondamentalistes, ce ne sont pas tous les musulmans, il faut bien faire attention. De plus, ils ont pillé et détruit 69 magasins appartenant à des chrétiens. Dans cette ville, il y a 150 000 chrétiens, la ville de Téma, T-E-M-A, en Égypte. Le texte continue en disant, nous tentons d'aider à survivre les communautés chrétiennes menacées d'extinction, surtout en veillant à la formation des prêtres, des religieuses et des laïcs, ainsi que par une aide pastorale. Dans notre bulletin, nous publions bien peu sur ce que nous faisons dans ces pays, pour ne pas mettre inutilement en danger les bénéficiaires de notre aide. Quelle tristesse. C'est en leur nom que nous vous remercions de votre prière et de votre soutien sans cesse renouvelé. Quand on voit dans des magazines comme le Time, j'avais gardé un article, Bombs in the name of Allah, des bombes au nom de Allah. Comment un croyant sincère musulman peut-il poser de tels gestes? C'est très étrange. Combien de musulmans sont épouvantés devant tout ça? Combien de musulmans regrettent ça, n'est-ce pas? Mais peuvent-ils parler? Ils n'osent plus trop. La cruauté de certains de ces extrémistes est telle, n'est-ce pas? Il faut dire aussi que l'Égypte souffre d'un... les gens sont très mécontents, n'est-ce pas, de la pauvreté de leur pays, du chômage, de la corruption aussi. Ils sont de plus en plus convaincus que les choses ne vont pas mieux. Alors, il y a une espèce de slogan qui règne et qui se propage, que l'islam est la seule solution. Alors, des millions de pauvres Égyptiens embrassent cette idée-là. Et alors, ils en arrivent à poser des gestes terribles. Les intellectuels égyptiens, à l'esprit sympathique à l'égard des Coptes, car il y a aussi des Coptes en Égypte très nombreux, se demandent si le grand courant de l'islam ne charrie pas par lui-même des semences d'une espèce de théocratie dans le genre de celle de l'Iran. Un grand musulman, le cheikh Mohamed Al-Khozali, a épouvanté le gouvernement du Caire en disant que quelqu'un qui avait des esprits du siècle, un esprit du siècle, un esprit libéral, un musulman qui était trop libéral, quoi, représente un danger à la société que la nation doit l'éliminer. Il disait c'est un devoir du gouvernement de le tuer. Quel dommage que de telles choses puissent se dire. Quel dommage. Et alors, il faut ajouter le Soudan, la Libye, l'Irak, l'Iran, la Syrie, et même, chose étrange, certains pays comme le nord de la Corée. En Arabie Saoudite, c'est pénible, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, même en Ouganda. Comment faire? Comment interpeller nos frères musulmans? Quand on pense que les islamistes ont lancé une polémique sur le droit des non-musulmans à être candidats dans un pays musulman, comme l'Égypte, le pape copte orthodoxe Shenouda III a protesté contre cette discrimination à l'encontre de sa communauté en Égypte. Je vous rappelle, ils sont environ, on dit, entre 7 et 9 millions. Toutefois, le parti du président Moubarak n'a présenté, cette année, n'a présenté aucun copte parmi ses 439 candidats, dont 317 ont été élus. Je lis ça dans la revue Sainte-Anne, de juillet-août, puis tout récent. Pour lui, pour Moubarak, mais c'est pas de sa faute, il est pris devant les intégristes. C'était comme si le régime reconnaissait le bien fondé des prétentions islamistes, et seule une trentaine de coptes ont osé se présenter aux élections comme membres des partis d'opposition ou candidats indépendants. Aucun n'a été élu. Ce sont des chrétiens, souvent catholiques. Le président Moubarak aura beau en nommer une poignée dans le contingent des députés nommés par le gouvernement, l'amertume de la communauté chrétienne ne se dissipera pas de sitôt, dit le revue Sainte-Anne, et l'exode des élites privées d'avenir dans leur patrie risque de s'accélérer. On le sait, il y a beaucoup de coptes égyptiens parmi nous. Et nous verrons la suite tout à l'heure pour voir ce que certains musulmans cherchent à faire pour vraiment transformer les choses et établir un vrai dialogue.
Il y a quelque temps, on a pu lire dans la presse que des intégristes musulmans avaient tué 11 paysans coptes en Haute-Égypte. Les intégristes attaquent souvent les coptes en Égypte, et c'est triste. Cela blesse la majorité des Égyptiens qui sont musulmans. Ces choses les épouvantent, car ils avaient réussi pendant plus de 1000 ans à s'entendre plus ou moins avec les coptes. Les coptes ont été souvent maltraités, mais quand même. Alors on disait dans la presse, 13 personnes ont été tuées lors d'une attaque menée hier par des musulmans intégristes contre des paysans coptes travaillant au champ dans le petit village de Manchiet Nasser, dans le sud de l'Égypte, où ils se retrouvent souvent, le sud de l'Égypte. La nouvelle a été annoncée par le ministère de l'Intérieur. Comme quoi, les autorités comprennent les choses et essaient d'y remédier. Selon le ministère, parmi les victimes figurent 12 coptes, dont un médecin, mais aussi un assaillant. De son côté, le général Nabil Ibada, responsable de la sécurité de la province d'Assyout, a précisé que parmi les victimes se trouvaient 10 paysans et un assaillant. 4 musulmans et 3 coptes ont été blessés. Alors, il y a d'autres nouvelles dans le même genre, dans cet article, qui se répètent, c'est toujours la même chose. Les coptes d'Égypte, ils sont maltraités, de façon terrible. D'ailleurs, vous vous souvenez que Nasser avait même enfermé le pape Shenouda III dans un monastère. Au Soudan, qui est un pays noir, c'est terrible. Je tiens à en parler parce que je trouve qu'on oublie toujours. On n'en parle pas. Et dans la revue Études, cette immense et très importante revue des Jésuites, à laquelle j'ai la chance d'être abonné depuis des années, il y a un bel article dans le numéro de janvier 1994, Chrétien au Soudan. Le pape est allé au Soudan pour les défendre, ces chrétiens. Quoi qu'il en soit, dit l'article à un moment donné, les paroles du pape ont attiré l'attention sur la situation de la communauté chrétienne en majorité originaire du sud du Soudan. C'est en Afrique. La guerre civile l'a terriblement affectée. Des millions de personnes ont dû quitter leur pays et fuir au nord ou à l'étranger. Des millions de personnes. Et on n'en parle à peu près jamais. sont des chrétiens en bonne partie, des noirs en plus de ça. Leur origine rend ces réfugiés suspects. On les croit aisément partisans de la SPLA, c'est-à-dire de l'Armée de Libération pour le Soudan, du peuple du Soudan. En tant que chrétiens, ils sont en butte aux tracasseries des fondamentalistes et des opportunistes. Vous savez qu'il y a des archevêques, là, des évêques, etc. C'est terrible. On rejette leurs demandes d'emploi. On bloque leur avancement. On leur refuse des lieux de culte. Pourtant, c'est prévu par la loi de 1962. On leur reproche de faire du bruit avec leurs chants religieux et leurs tam-tam. Fait plus grave, des prêtres et des catéchistes soudanais ont été arrêtés et sont gardés en prison sans jugement, parfois sous des prétextes concernant la guerre civile. Et certains ont été brutalisés, parfois torturés. D'autres, par exemple, à Dongala, dans le Nord, sont restés incarcérés sans être inculpés. Pour la seule raison, formulée là ouvertement, qu'ils étaient chrétiens. Et selon le mot d'un officiel, « indésirable » dans cette partie du pays. Et en fait, cette région avait été, avant l'arrivée de l'islam, l'un des premiers royaumes chrétiens du Soudan. On a proposé à des chrétiens, emprisonnés pour complicité supposée avec ce mouvement de l'armée de libération, de les relâcher s'ils devenaient musulmans, imaginez. En plusieurs occasions, on a convoqué l'archevêque de Khartoum et d'autres évêques et dignitaires de l'Église à la Sûreté nationale pour justifier diverses activités. Des demandes de visa, des déclarations faites par eux. Et Mgr Zuber, l'archevêque, a même dû expliquer le sens de son message de Pâques où il avait parlé du second avènement du Christ. Imaginez, un fonctionnaire de la Sûreté avait, semble-t-il, soupçonné une allusion à des forces politiques à l'œuvre dans le pays. Voyons. Et en 3 ans, on a compté plus de 50 cas de ces tracasseries dans les diocèses du Soudan. On s'explique que le pape ait fermement dit au chef de l'État, à Khartoum, que tous les Soudanais ont droit à la liberté religieuse. Le pape ne se gêne pas pour revendiquer. Mais nous, qu'en faisons-nous? Répétons-nous ce que le pape dit, comme je viens de le faire, avec tout le respect qu'on doit pour nos frères musulmans. Il y a 2 ans, dans son édition, la revue des pères des missionnaires étrangères, publiait un article très intéressant de la jeunesse au Soudan, et ils disent que le 5 septembre 1994, l'hebdomadaire international Newsweek estimait à 5 millions les gens de tout âge menacés de mourir de faim au Soudan, à moins d'une aide immédiate ne leur soit apportée. Et les statistiques sont menteuses. Ils ajoutaient, disons qu'il y en a 1 million. C'est les missionnaires des missions étrangères qui font cette réflexion. Et c'est déjà beaucoup, 1 million, surtout si on dépasse la donnée statistique pour entrevoir l'image effarante de tous ces enfants et adultes qui ne mourront pas, mais... écoutez bien ça, dont les cellules cérébrales seront irrémédiablement détruites par manque de protéines. Alors affectés de carences mentales, incurables, ces gens seront condamnés à vivre en sous-doué parce qu'une guerre insensée en aura fait des victimes. Mais cette guerre maudite fait aussi beaucoup d'autres victimes, dont on parle moins, parce qu'elles sont moins apparentes, et je vais parler de tous les problèmes qui affectent les jeunes réfugiés. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au Soudan? Qu'y a-t-il de si terrible? Dans une revue fort sérieuse, je lis ce qui suit. Dans certains villages du Sud-Soudan, tous les chrétiens de sexe masculin ont été crucifiés dans le cadre du programme d'islamisation massive conduit par le gouvernement de Khartoum. Le Coran, dans la sourate 5, verset 37, permettrait en effet aux musulmans de crucifier les non-musulmans, mais j'en doute. Le Soudan compte 8 millions de chrétiens et de païens. Regroupés dans le sud du pays, ces ethnies noires refusent l'islam, et pour les forcer à se convertir, le gouvernement envoie des divisions motorisées. 600 000 personnes ont déjà été tuées, et 1 million ont dû fuir. Toute une population noire est ainsi menacée de génocide. Mais qui en parle? Qui parle de ces drames épouvantables? Je fais appel au cœur, à la bonté, à la miséricorde des musulmans qui m'écoutent, pour qu'ils se lèvent, pour qu'ils disent que de telles choses doivent cesser. La situation, dit l'article, est semblable à celle qui prévaut en Bosnie, où les musulmans sont très maltraités, vous savez, et souvent tués. Dans l'ex-Yougoslavie, la situation est semblable à celle qui prévaut en Bosnie, dit cette revue catholique. À la seule différence, presque tout le monde sait ce qui se passe en Bosnie, où les victimes musulmanes reçoivent de l'aide des Nations Unies. Alors que le silence règne à propos du Soudan, où les victimes non musulmanes ne sont guère aidées par les Nations Unies. Vous avez la déclaration constitutionnelle qui a fait du Soudan un État islamique. Ça a été adopté, ça, par le gouvernement de Khartoum en 1983, gouvernement musulman. Alors, le gouvernement actuel est formé par une junte militaire d'un général, Omar el-Bashir. C'est pas n'importe qui. Il est parrainé par le Front National Islamique, poursuit l'islamisation autoritaire de la société du nord du Soudan, des milliers de jeunes Africains qui ont été déplacés par la guerre vers le nord, là, et qui sont catholiques, se sentent très brimés par cette imposition de l'islam qui va à l'encontre de leur culture, et l'État impose la langue et la culture arabe à tout le monde. Les modes de vie islamiques ne sont pas du tout les mêmes que les modes de vie africains ancestraux. C'est pas la même chose. Et les filles se voient forcées de s'accoutrer à la musulmane. Et pour avoir manqué à cette obligation, certaines ont dû passer des heures dans des cellules en prison. Pour les jeunes, en mal de s'affirmer, mais il y a une impossibilité pour eux de réconcilier leurs valeurs avec celles de la société islamique. Ça provoque une crise d'identité. L'usage de leur langue maternelle est rendu à tel point impossible, parce qu'ils doivent parler l'arabe, qu'ils finissent par ne même plus savoir la parler. Et souvent, ils ne sont plus capables de s'exprimer avec facilité, ni dans leur langue, ni dans la langue arabe. Il y a là un grave problème quand on sait que l'expression « soi » est loin d'être secondaire. L'expression de soi dans sa langue, ça fait partie intégrante du développement de la personnalité, et ces pauvres jeunes sont détruits. Dans la vie des jeunes, on rencontre souvent la frustration, le dégoût, la colère comme une toile de fond de leur quotidien. Et je parle pas là de 10, 15 ou 20 personnes, c'est des centaines et des centaines et des centaines de milliers de personnes. C'est incroyable. Toute la vie de ce pays du Soudan est organisée en fonction de l'islam. Les mosquées sont omniprésentes, avec leur appel à la prière 5 fois par jour. Et le vendredi, jour férié, est très respecté. Hein. Toutes les femmes portent le voile sur la tête. Mais elles ont toutes le même visage découvert, sauf quelques rares exceptions. Et le mois du Ramadan, le grand jeûne, on ne peut même pas trouver une goutte d'eau en ville. Pour ceux qui sont pas musulmans, ils ne peuvent pas boire. Je ne veux pas critiquer ici l'islam ni les musulmans, c'est pas ça que je veux faire. Ça m'impressionne toujours, moi, personnellement, quand je vois tous ces hommes, jeunes et vieux, se prosterner pour la prière, où qu'ils soient. J'ai vu ça dans les pays musulmans, j'étais très impressionné. Et c'est très beau. Mais ce qui fait problème, c'est quand ça tourne au fanatisme d'un groupe bien précis qui s'appelle, en général, les frères musulmans. Que c'est triste. Ils déforment l'islam, qui est si beau. Et ce sont eux qui sont derrière la dictature militaire et qui veulent imposer la foi musulmane à tout le pays. On pourrait objecter qu'au Soudan, à l'encontre de l'Arabie Saoudite, où il n'y a pas d'église chrétienne, mais les églises là au Soudan sont ouvertes, les gens ont le droit de prendre 2 heures le dimanche pour aller à l'église. Oui, c'est légal, mais c'est hypocrite. Il y a une détermination irrévocable d'éliminer tout ce qui n'est pas de l'islam au Soudan. Et c'est pas le seul endroit au monde. Ça se répand comme une tache d'huile. Un jour, un missionnaire est entré en contact avec quelqu'un de l'ambassade du Zaïre qui lui disait « Père, tu n'as pas idée de la fréquence et de l'insistance avec lesquelles le gouvernement ne cesse de rappeler à tout son personnel la vigilance à déployer contre la religion catholique. » Imaginez, au niveau du gouvernement. Et nous ici, nous avons un député, une femme musulmane, Madame Ouda Pépin, qui proteste. Personne, on n'aurait pas idée de protester contre l'élection d'une musulmane dans notre gouvernement du Québec. Nous avons été les premiers ici, au Québec, à élire un juif dans la première moitié du siècle dernier à Trois-Rivières, avant même les Anglais en Angleterre. Notre cœur est ouvert aux juifs, aux musulmans et à tous. On nous dit que nous sommes très fermés. Qu'il y ait des problèmes, c'est vrai, mais nous sommes certainement plus ouverts que bien des peuples de la terre. Et dans un tel contexte, le missionnaire disait, je pourrais dire d'une façon presque scandaleuse qu'il n'y a pas d'avenir pour la religion catholique au Soudan. Je ne suis pas le seul à le penser. La tentation devient parfois très forte de sacrifier sa foi pour obtenir des avantages économiques. Et beaucoup d'ailleurs se font un devoir de les faire miroiter aux yeux des jeunes, et vous pouvez alors vous imaginer les tensions engendrées au sein d'une famille ou d'une communauté lorsque l'un de ses membres a décidé de passer de l'autre côté, croyant ainsi assurer son avenir. Vous avez peut-être lu dans la presse cette petite nouvelle parmi des milliers d'autres qui m'attriste. La justice libanaise a décidé de poursuivre Marcel Khalife, un musicien engagé très connu dans le monde arabe et qui a chanté à quelques reprises à Montréal. Il le poursuit pour avoir chanté un texte comprenant un verset du Coran. La décision a été prise par le procureur général de la Cour de cassation de Beyrouth, c'est pas dans le fin fond du Liban, en capitale. Le procureur général de la Cour de cassation, Abdallah Bitar, qui l'accuse d'avoir, dit-on, fait preuve de mépris envers les rites religieux en introduisant un verset du Coran puisé dans la sourate de Joseph dans une chanson intitulée « Père, c'est moi, Joseph ». L'atteinte aux croyances religieuses est un délit passible de 6 mois à 3 ans de prison au Liban. Et la chanson, distribuée sur le marché depuis plus d'un an, reprend le mythe biblique de Joseph et ses 7 frères. Vous connaissez ça, hein? On a tous étudié ça dans l'Ancien Testament. Et le Coran a repris beaucoup de ces éléments de l'Ancien Testament. Le texte, dit l'article dans la presse, est un poème tiré d'un recueil du poète palestinien Mahmoud Darwish, publié en 1992 et intitulé « 11 planètes ». Ça me rappelle tout ça, l'enfer dans lequel on a plongé Salman Rushdie. S'il fallait que nous, nous étions en prison, ceux qui attaquent ce que nous disons, qu'attaquent le pape, qu'attaquent le cardinal Turcotte, qu'attaquent le Christ, qu'attaquent la Vierge, qui tous nos journalistes, je n'en nomme pas, je me retiens parce qu'il y en a trop. Il faudra en nommer 100, 200. N'en finirait plus. On n'en finirait plus. Les prisons seraient immenses ici. Sur un tract distribué en Jordanie par des intégristes musulmans. Je dis bien des intégristes. C'est pas les musulmans, ça. C'est des intégristes. Des gens qui sont obnubilés et qui sont de plus en plus nombreux, malheureusement. Eh bien, on dit dans ce tract en Jordanie, au nom d'Allah et au nom de l'arabisme, nous te saluons, frère. Tu n'es pas sans connaître la situation qui prévaut en Jordanie. Les chrétiens y constituent 7% de la population. Ils travaillent dans l'ombre sous la protection de Rome. Du pape, quoi. Ils sont médecins, architectes, avocats, entrepreneurs, bijoutiers, agents de compagnie, employés et occupent les postes les plus importants. Or, le tract donne une longue liste de noms de chrétiens ayant des responsabilités dans la vie sociale et économique de la Jordanie. Puis le tract conclut, écoutez, ça c'est invraisemblable, est-il admissible qu'on tolère la présence d'un tel potentiel croisé, je dis bien croisé en rapport avec les croisades, ils reviennent toujours à ça, dans un pays arabe et musulman, gouverné par un roi descendant du grand prophète. Ces intégristes, vraiment, vont très loin. Hein? Très loin. Vous savez que la survie de l'Église chaldéenne catholique, à la messe où je vais, il y a souvent un chaldéen catholique d'Irak. Là, c'est l'Église chaldéenne catholique d'Iran. Mais la survie de cette Église, vous savez que les chaldéens sont souvent catholiques. Hein? C'est très... Il faut savoir que dans l'Église catholique, il y a 20 églises différentes unies autour du pape. Hein? Or, l'Église chaldéenne catholique est à l'ordre du jour, la survie de cette Église en Iran, depuis l'expulsion de l'archevêque du diocèse d'Urmia, Mgr Thomas Mehram, et déjà Mgr Anna Zora, évêque d'Awaz, avait subi récemment le même sort, dit-on. Et actuellement, les diocèses d'Awaz, Téhéran et d'Urmia n'ont respectivement que 3 et 2 prêtres en fonction. Certains d'entre eux sont menacés d'expulsion et l'évêque de Téhéran est très malade. Et cette situation préoccupante est aggravée par le fait que les candidats au sacerdoce formés à l'étranger y sont restés, ils peuvent plus revenir, et presque rien n'a été fait pour permettre l'ordination d'hommes mariés selon la tradition des églises d'Orient. Vous savez que dans l'église chaldéenne, les prêtres peuvent se marier. Ils sont catholiques, mais ils peuvent se marier. Depuis 1979, les églises catholiques ont perdu 85% de leur clergé. C'est pire que nous, hein? La fermeture des écoles catholiques et de certains lieux de culte, l'impossibilité de construire de nouvelles églises, sont les marques les plus visibles de cette graduelle disparition de l'église catholique en Iran. À cela s'ajoute la souffrance morale des catholiques orientaux. On dit orientaux, c'est ceux qui ont les rites différents d'une autre, hein, dans ce pays de l'Iran. Donc la souffrance morale, eux qui ont l'impression que la situation tragique de leur église se passe, écoutez bien, apparemment dans l'indifférence du reste du monde chrétien. L'indifférence, notre indifférence est épouvantable. Hein. Et je rappelle ce que disait le Saint-Siège, au sujet de l'Arabie Saoudite, et à plusieurs reprises, le Vatican a demandé d'ouvrir des lieux de culte en Arabie Saoudite. C'est là que ça a commencé l'islam. C'est là qu'est la Mecque et Médine, dont je vous ai parlé au tout début de cette émission. Eh bien, à plusieurs reprises, le Vatican a demandé d'ouvrir des lieux de culte dans ce pays, au moins pour accommoder les travailleurs immigrés catholiques et aussi des employés ont besoin de la compagnie Bell qui vont installer des lignes téléphoniques là-bas et qui viennent du Québec, mais qui sont catholiques. Ils n'ont pas de prêtre, ils n'ont pas le droit. Le Saint-Siège entretenait quelques espoirs d'une réponse favorable. Écoutez bien, après l'ouverture à Rome d'une grande mosquée et d'un centre islamique financé par l'Arabie Saoudite, en plein Rome, hein, en banlieue de Rome. Or, le gouvernement de l'Arabie Saoudite a refusé absolument d'accéder à la demande du Vatican, même pas une petite chapelle. Il n'y aura pas d'église chrétienne en Arabie Saoudite et le ministre de l'Information de l'Arabie Saoudite explique que le gouvernement de ce pays étrange regrette de ne pouvoir donner son autorisation. Il dit, il ne s'agit pas d'une décision du gouvernement, mais d'un ordre de Dieu. Mon Dieu, qu'il faut donc prier ensemble. Si vous avez des amis musulmans, demandez-leur de prier avec vous. Embrassez-les. Invitez-les à prier avec vous. Pour que la paix des cœurs s'installe chez les intégristes. Voici une belle prière que j'ai puisée dans le courrier de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est une prière de Suzanne de Dietrich qui est morte en 1981 et dont j'aimerais bien vous parler un jour. Seigneur notre Dieu, quelle nation est juste devant toi? De toute la surface de la terre, le sang des peuples crie vers toi. Ceux qui n'ont pas pris les armes se sont enrichis au prix du sang des autres. Nous avons préféré nos sécurités humaines à ta justice. Nous avons manqué à la parole donnée. Nous avons dit paix là où il n'y avait que mensonge et coalition d'intérêts. Ô Seigneur, pardonne et sauve, ne nous laisse pas nous consumer nous-mêmes par notre propre iniquité. Car il n'y a point de limite à la puissance de destruction des hommes, et nous sommes perdus si tu nous abandonnes. Seigneur, garde-nous de toute fausse paix qui serait une évasion de la réalité. Garde-nous des silences complices, garde-nous des silences complices. Ne permets jamais que nous nous résignions au mal et que nous abandonnions le monde aux puissances de mensonges et de haine qui le déchirent. Donne-nous un esprit de sagesse, de prudence et de courage chaque fois qu'il s'agit de prendre parti pour ce que nous croyons être la justice et la vérité. Ô toi qui, dans les temps anciens, t'es suscité des prophètes, donne aujourd'hui à ton Église les témoins courageux dont elle a besoin, pour l'amour et la gloire de ton nom. Amen. Je ne saurais terminer sans demander pardon à tous les musulmans pour tout ce que nous avons pu leur faire, pour le manque de respect parfois. Nous les aimons, nos frères musulmans, pour tout ce qu'il y a de bonté dans leur cœur et de foi profonde. Nous leur demandons de marcher avec nous vers Dieu, main dans la main.